Bonsoir à toutes et à tous. Bienvenue dans Du Grain à Moudre. Nous sommes ensemble jusqu'à 19h. Cela fait précisément 1000 jours ce mercredi qu'une coalition menée par l'Arabie Saoudite et les Émirats Arabes Unis bombarde le Yémen. 1000 jours que le conflit, auparavant circonscrit aux seules frontières de ce jeune pays, a pris une dimension régionale. 1000 jours que les populations civiles sont, comme souvent dans les guerres, la principale cible des combats. Le Yémen ne peut plus attendre. C'est le titre d'une tribune que des personnalités du monde politique, culturel et universitaire viennent de publier dans le journal Le Monde. Elles interpellent Donald Trump, Emmanuel Macron et Theresa May au nom de la responsabilité qui est la leur pour mettre un terme à cette catastrophe humanitaire, à la fois en tant que membre du Conseil de sécurité de l'ONU et, je cite, principaux fournisseurs d'armes de l'Arabie Saoudite. Alors la condamnation de cette guerre n'est pas seulement morale, ses conséquences sont multiples et explosives. Déplacement de population, nouvelle source de légitimité pour le terrorisme islamiste, risque d'embrasement régional. La guerre au Yémen n'est pas qu'une question yéménite, elle peine pourtant à être prise en considération. Alors Yémen, une guerre de déstabilisation massive. C'est autour de cette question que nous allons discuter ce soir jusqu'à 19h en compagnie de trois invités. Fatia Daziani, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes politologue, chercheuse à l'Institut de recherche stratégique de l'École militaire, enseignante à l'Institut d'études politiques de Lille. Vous avez publié cette année aux éditions Talendier l'Arabie Saoudite en 100 questions. Pour discuter avec vous, Gilles Gauthier, bonsoir.
Bonsoir.
Ancien ambassadeur de France au Yémen, vous avez été en poste de 2006 à 2009 après avoir beaucoup circulé dans les pays arabes. Vous êtes aujourd'hui conseiller du président de l'Institut du monde arabe, qui, je le rappelle, se trouve à Paris, Lima. Et puis notre troisième invité, Laurent Bonnefoy, bonsoir.
Bonsoir.
Politologue, chercheur CNRS au Centre de recherche internationale de Sciences Po, le CERI, spécialiste de la péninsule arabique et notamment du Yémen. Yémen, un pays auquel vous avez consacré un ouvrage qui vient d'être publié chez Fayard, Le Yémen, de l'Arabie heureuse à la guerre. Alors la première question que je voudrais vous poser à tous les trois, et une question qui est au-delà des considérations éthiques qui ne sont pas minces étant donné l'ampleur de la crise humanitaire, mais en quoi est-ce que c'est une guerre qui nous concerne, Laurent Bonnefoy ?
Alors c'est une guerre qui nous concerne et qui devrait concerner même les plus cyniques d'entre nous, tout simplement parce que au-delà du Yémen, eh bien, elle génère une forme d'effondrement de la société, et cet effondrement ne se produit pas à huis clos. Il ne se produit pas à huis clos tout simplement parce que il y a un facteur de déstabilisation régionale. Évident, avec la confrontation qui se joue entre l'Arabie Saoudite et l'Iran. Et puis, il y a aussi des implications possibles. Le chaos que génère la guerre, eh bien, favorise un certain nombre de groupes, des groupes djihadistes. Et ces groupes djihadistes, comme on s'en souvient, ont été ceux, à travers Al-Qaïda dans la péninsule arabique, qui avaient revendiqué, planifié l'attentat contre Charlie Hebdo. Et puis enfin, il y a la question, malgré tout, liée à la crise des réfugiés. Une guerre dans un pays qui compte aujourd'hui 30 millions d'habitants, eh bien, génère des flux. Et ces flux-là ont, d'une certaine manière, toutes les chances, dans les mois ou les années à venir, à déboucher sur l'Europe.
Vous êtes d'accord, Fatia Daziani et Gilles Gauthier, avec toutes les raisons que vient d'évoquer Laurent Bonnefoy, Fatia Daziani?
Oui, bien sûr, et c'est vrai que l'aggravation, la fragmentation de la société yéménite, de toutes les parties en considération, font que également une sortie de crise est de plus en plus compliquée dans ce pays, parce que les loyautés se défont, on a du mal à y comprendre quelque chose. Les Saoudiens eux-mêmes, enfin, j'ai été récemment en Arabie Saoudite, sont très éloignés de la réalité. Ils étaient convaincus que en réussissant à diviser les Houthis et Ali Abdallah Saleh, ils parviendraient à leur fin. Et on voit que le CPG, donc le parti d'Ali Abdallah Saleh, est complètement divisé, fragmenté, et que les résultats sont totalement à l'opposé de ce qu'ils avaient escompté.
Il faut juste peut-être d'ailleurs préciser, hein, puisque vous évoquez des noms qui sont importants pour comprendre, pour essayer de comprendre ce conflit yéménite, et Gilles Gauthier, peut-être, alors, je ne sais pas si vous avez des choses à ajouter sur
oui,
le fait
que
ça nous concerne, mais en tout cas, peut-être pour préciser déjà les Houthis, et puis le président Salé, on devrait même dire l'ancien président, l'ex-président,
décédé,
assassiné il y a quelques jours de cela, c'était début décembre, par ses anciens alliés qui étaient les rebelles Houthis. Gilles Gauthier.
Oui, mais je voulais revenir à cette idée de déstabilisation régionale.
On emploie souvent une expression qui est les pays du Golfe. Les pays du Golfe, les pays les plus riches du monde, qui produisent du pétrole. Moi, j'emploie plutôt l'expression de la péninsule arabe. Et dans cette péninsule arabe, qui comprend les pays du Golfe, le Yémen représente de loin la plus grande partie de la population. Le chiffre de 30 millions, je ne sais pas s'il est avéré, mais moi, quand j'étais là-bas, on en était à 24-25, donc c'est fort probable. Sans compter les très nombreux Yéménites qui se trouvent en Arabie Saoudite, comment peut-on imaginer qu'une région comme celle-ci, où les liens humains sont aussi forts, puisse rester longtemps stable si la majorité de sa population, la grande majorité de sa population, en tout cas d'origine arabe, population autochtone, est dans un état aussi lamentable. Déjà, il y avait le plus grand contraste au monde entre les pays riches et les pays pauvres. C'est-à-dire, c'était la frontière du monde, la seule frontière du monde qui séparait d'aussi près les pays les plus riches du monde d'un des pays les plus pauvres du monde. Et maintenant, ça sépare un pays en train d'éclater, soumis à un drame humanitaire, et d'un autre côté, des pays qui, eux, sont prospères. Est-ce que ça peut durer très longtemps? Il y a une grande menace de déstabilisation.
Et comment expliquer, Gilles Gauthier, à votre avis, que ce conflit reste aussi absent, disons, du débat médiatique, du débat politique, même s'il y a peut-être une prise de conscience qui est en train d'avoir lieu actuellement, mais un pays aussi important tel que vous le décrivez tous les trois, on devrait en parler beaucoup plus, on devrait s'y intéresser davantage, puisque ça a un impact aussi potentiellement sur nos territoires à nous.
Je crois qu'il y a des raisons géographiques, l'isolement du Yémen dans un endroit justement encerclé par des pays extrêmement riches, l'isolement du Yémen qui n'est ni au Moyen-Orient, ni au Maghreb, et qui est regardé comme quelque chose de charmant et de folklorique, mais qui n'est pas et qui ne rapporte pas. Le Yémen est un pays qui ne rapporte pas, qui ne coûte pas, qui n'est pas dans la comptabilité internationale. Il n'a pas de richesse naturelle, il n'a ou très peu.
Est-ce que on pourrait aussi peut-être parler d'une forme d'isolement intellectuel et politique, Laurent Bonnefoy? C'est-à-dire que c'est un pays qui est réputé, et je pense que c'est à juste titre, enfin, vous allez nous le dire, comme extrêmement dangereux, et donc dans lequel il est compliqué d'aller aujourd'hui pour essayer d'étudier ce qu'est la réalité de ce conflit.
Alors il y a effectivement un isolement qui est aussi politique, c'est-à-dire que la faiblesse de la couverture médiatique liée à l'impossibilité ou la très grande difficulté pour des journalistes occidentaux de se rendre sur place joue effectivement un rôle. Mais il me semble que c'est pas là l'essentiel. Il y a une limite qui est liée, je pense, à la complexité propre du conflit. C'est-à-dire qu'elle met face à face des acteurs qui sont spécifiquement yéménites. Pour peu qu'on accepte de considérer que la grille de lecture géopolitique sunnite-chiite ou Iran-Arabie Saoudite est insuffisante.
C'est-à-dire si on voulait l'expliquer simplement, on dirait, voilà, il y a d'un côté des sunnites qui sont majoritaires, de l'autre côté des chiites qui sont minoritaires, avec des rebelles issus de cette minorité chiite qui ont tenté de, et qui sont arrivés d'ailleurs de renverser le pouvoir, sauf que ça ne résiste pas à un examen un peu plus approfondi.
Tout à fait, donc il y a cette complexité-là qui fait que c'est toujours difficile de parler du Yémen et d'en parler de façon simplement pour cadrer avec un format soit médiatique, soit même politique. Mais au-delà de ça, je pense aussi qu'il y a un certain nombre de données liées peut-être à l'absence d'effet d'entraînement venant des gouvernants. C'est-à-dire que nos gouvernants, les gouvernants occidentaux, et c'est pour ça que la lettre publiée dans Le Monde, l'appel était aussi adressé aux dirigeants occidentaux, parce que d'une certaine manière, ils sont à la fois complices et en même temps dans une complicité un peu honteuse. C'est-à-dire que personne ne va aller revendiquer l'alliance qui est aujourd'hui nouée avec l'Arabie Saoudite et les Émirats Arabes Unis pour bombarder la population yéménite. Et dans ce cadre-là, eh bien, il n'y a pas d'effet d'entraînement venant des majorités politiques parce qu'on préfère malgré tout mettre la priorité sur les contrats d'armement, sur des intérêts économiques qui font passer malheureusement la population yéménite au second plan.
Fatia Daziani.
Alors, Laurent a tout à fait raison d'insister sur cette dimension, mais il y a aussi, malheureusement, le Yémen, on est habitué à la guerre au Yémen. Et c'est vrai que les acteurs yéménites se sont toujours livrés à des guerres, hein, sans compter évidemment l'interventionnisme saoudien qui a également toujours existé. Mais il ne faut pas non plus oublier l'extrême grande responsabilité des acteurs politiques yéménites. C'est un désastre quand même ce qu'a engendré Ali Abdallah Saleh et tout son héritage. C'est quelqu'un dont la fortune était estimée, m'a-t-on dit. Alors c'est des sources saoudiennes à prendre, mais ils sont quand même assez bien placés pour savoir, parce que ça a été quand même ceux qui ont essentiellement fourni l'argent et des aides au Yémen, hein, avant de livrer cette guerre. Il y a quand même eu beaucoup aussi d'aides en provenance d'Arabie Saoudite. Et on dit qu'Ali Abdallah Saleh aurait 60 milliards de dollars de fortune personnelle. Hein. Donc il y a aussi cet aspect-là de corruption, d'acteurs délétères, hein, de la part du Yémen. Si le Yémen en est là, malheureusement, la classe politique yéménite est ultra responsable aussi de cela.
Alors ça, c'est pas
c'est pas quelque chose, certes, qu'on entend souvent et de très sexy, mais je suis désolée, c'est quand même le cas.
Ouais, et c'est peut-être pas quelque chose d'ailleurs qui serait, on va dire, susceptible de convaincre ce qu'on appelle la communauté internationale d'intervenir, alors qu'il y a quand même des éléments qui devraient être favorables à ça. On va parler dans un instant de la crise humanitaire qui est quand même évidemment au cœur de l'urgence aujourd'hui. Mais vous évoquiez tout à l'heure, Laurent Bonnefoy, les risques que faisait courir ce conflit, risques sécuritaires, parce que c'est aussi un endroit où prospèrent les groupes djihadistes. Al-Qaïda on considérait qu'Al-Qaïda avait sa base la plus dangereuse il y a quelques années de cela au Yémen. Il y a même d'ailleurs eu des attaques qui sont faites au large du Yémen contre un navire de guerre américain en 2000, l'USS Cole, contre un pétrolier français en 2002. C'était le Limbourg, je ne sais pas comment il faut dire. Comment est-ce que vous expliquez, Gilles Gauthier, que le Yémen finalement semble être, semble passer à côté de cette guerre contre le terrorisme qui préoccupe tant les Occidentaux? C'est-à-dire, ne serait-ce que pour ces raisons-là, on devrait s'y intéresser plus.
Ce qui est paradoxal, c'est que ça ne passe pas à côté, puisque les Américains, depuis très longtemps, quand j'étais là-bas, quotidiennement, les Américains envoyaient des drones et contre les gens d'Al-Qaïda et tuaient parfois des gens d'Al-Qaïda et parfois des gens de la population. Et on avait l'habitude de dire que chaque drone faisait naître une dizaine ou une centaine de nouveaux djihadistes.
En même temps, quand les États-Unis décident de mener une coalition contre le terrorisme, ils le font quand même de manière plus massive, manifestement, qu'au Yémen. Je ne dis pas que c'est forcément d'ailleurs la bonne option à ce qu'il faut faire. Mais
ils continuent, paradoxalement, ils continuent à appuyer les bombardements saoudiens qui font naître des vocations djihadistes. Enfin, en tout cas, la déstabilisation générale, parce qu'il n'y a pas de vocation djihadiste qui naisse chez les Houthis pour des raisons certaines. Mais en revanche, ils continuent pendant le même temps à envoyer des drones.
Laurent Bonnefoy, moi j'avais lu alors dans une de vos interviews que le Yémen, vous disiez, n'a jamais été une priorité, quand bien même les décideurs américains affirmaient publiquement que la branche locale d'Al-Qaïda était la plus dangereuse du monde.
Oui, c'est effectivement un paradoxe, et c'est un paradoxe qui structure sans doute l'image de ce pays, et c'est quelque chose que je traite effectivement dans le livre. Ce paradoxe, il naît d'une forme de fascination, mais en même temps d'une mécompréhension, c'est-à-dire que on reconnaît que le pays est stratégique, il est stratégique de par sa position géographique, avec sur des routes maritimes qui sont fondamentales. Il est stratégique aussi parce qu'il se trouve au carrefour de trois continents ou trois régions importantes, mais en même temps, on ne le traite pas à sa juste valeur. On ne le traite pas à sa juste valeur parce que je pense qu'il est d'une certaine manière trop compliqué, et on a laissé filer finalement un certain nombre de dynamiques en se concentrant seulement sur la question djihadiste, mais en le faisant finalement assez mal, tout simplement parce que on n'avait pas forcément les clés pour la comprendre. C'est-à-dire que on considérait que le pouvoir d'Ali Abdallah Saleh à l'époque, dans les années 2000, était engagé dans la lutte antiterroriste, or il ne l'était pas vraiment. On considérait que l'Arabie Saoudite, et on considère aujourd'hui encore que l'Arabie Saoudite est pleinement en maîtrise du dossier yéménite, or c'est un des vrais problèmes. C'est-à-dire que c'est c'est un pays qui échappe très largement à la compréhension. Mais pas seulement à la nôtre, pas seulement à celle des Américains, mais aussi à celle des acteurs régionaux. Ce qui fait qu'encore aujourd'hui, eh bien, les belligérants de la coalition eh bien, prétendent une chose, c'est-à-dire ils prétendent lutter contre les Houthis, mais dans le même temps lutter contre les djihadistes. Or, sur le terrain, on voit qu'ils appuient aussi très largement des efforts de groupes salafistes qui vont leur échapper aussi. Et ça, c'est quelque chose qui est extrêmement problématique.
Alors, il y a un certain nombre d'urgences par rapport à ce conflit. La première, c'est sans doute, c'est même plus que sans doute, l'urgence humanitaire. Les Nations Unies, on parle comme d'une des pires crises humanitaires au monde, avec un conflit d'abord qui est très meurtrier, hein, plusieurs milliers de victimes, même si c'est toujours compliqué à dénombrer, des victimes directes, des victimes indirectes, Fatia Daziani.
Oui, absolument. Hein. C'est la guerre du Yémen, enfin, je veux dire, en presque 3 ans, a fait beaucoup plus de dégâts humanitaires qu'en Syrie. Hein. C'est de tout ce que j'entends de ces organisations humanitaires, effectivement, c'est la pire de toutes les tragédies. Et ça risque de, malheureusement, de continuer à s'aggraver quand on voit les stratégies jusqu'au boutistes. Aujourd'hui, de la coalition, les Saoudiens, moi je reviens d'Arabie Saoudite, on me dit qu'il est hors de question de s'arrêter à mi-chemin. On a des rebelles houthis qui s'organisent un peu à la manière d'un Hezbollah libanais. C'est la ligne rouge qui est tout à fait inacceptable pour le leadership saoudien, mais également pour la population saoudienne. Donc, on le voit bien, hein, ces ports qui sont pas accessibles aux humanitaires, etc. On va vers une sorte d'étouffement humanitaire. Et donc, de ce point de vue-là, c'est jusqu'au boutiste. De l'autre côté, les Houthis, pareil, n'ont pas d'autre choix que de continuer la guerre. Donc, c'est assez terrible, mais cette crise humanitaire, va continuer à s'aggraver.
Il y avait d'ailleurs des chiffres, hein, communiqués par l'ONU hier, qui témoignaient d'une intensification des frappes aériennes menées par l'Arabie Saoudite et ses alliés. 316 civils tués en 10 jours, donc le côté jusqu'au boutiste se ressent sur le terrain militaire, mais il y a aussi des impacts indirects, Gilles Gauthier et Laurent Bonnefoy, c'est-à-dire des déplacements très importants de population. Bon, ça parlait aussi de famille à laquelle est confrontée une grande partie de la population.
Alors ce sont des bombardements, un blocus qui a un impact sur la population, mais qui, de mon point de vue, n'en a pas un grand sur la capacité militaire des Houthis, qui est une capacité très primitive. Ils se battent, on parle toujours d'armement iranien, ils se battent comme ils se battent depuis le début des années 2000, avec des armes simples, avec réfugiés dans leurs montagnes. N'oublions pas que la région, qui est le cœur du pouvoir Houthis, n'a jamais été vaincu au moment de la révolution yéménite. Quand l'imam a été chassé du pays, il est parti parce que les Saoudiens lui ont demandé de partir, mais la région de Saada n'a jamais été vaincue. Donc cette guerre peut durer extrêmement longtemps si il n'y a pas une volonté internationale. Et je voudrais ajouter un tout petit mot au sujet de la position des États-Unis, de la France. La question, c'est que est-ce qu'il y a une politique ? Est-ce que on peut dire qu'il y a une politique américaine ? Comment se prend la décision ? Est-ce que les décisions de la CIA sont celles du département d'État ? En France même, comment se prennent les décisions ? Moi qui étais un petit peu dans ce milieu-là, c'était pas évident de s'en rendre compte. Elles étaient prises un peu au doigt mouillé parfois. Les décisions étaient prises en fonction de par exemple, ça peut être en fonction d'un contrat d'armes à un certain moment, mais sans réfléchir beaucoup plus loin. Je ne pense pas qu'il y ait un engagement réel de la France pour appuyer je suis même certain que j'ai parlé avec certains conseillers de l'ancien président, ils auraient bien aimé que ça s'arrange, mais ils n'ont mis ni beaucoup d'énergie à soutenir les Saoudiens, mais ils ont laissé faire, mais ils ne mettent pas beaucoup d'énergie non plus à empêcher cette guerre. Et il faudrait que nous réussissions à les convaincre que c'est leur intérêt, que c'est notre intérêt à tous de faire prendre un pas de plus et de réussir à interrompre ça, parce que sinon on va vers une catastrophe. Moi je suis en contact avec des Yéménites, hein, le téléphone fonctionne.
Ils vous disent quoi ?
Ils me disent que ça devient épouvantable. Pas tellement, on vit dans les rues de Sanaa, on y circule, la vie continue. Mais on ne trouve plus de lait pour les enfants, on ne trouve plus d'eau, c'est le gros problème du Yémen, on ne trouve plus d'eau. L'alimentation quotidienne, on peut encore trouver quand on a de l'argent, mais bien sûr, là aussi, on n'a plus d'argent, parce qu'on ne travaille plus. Petit à petit, le pays est en train de s'enfoncer. Alors, déjà qu'il se serait enfoncé sans guerre, puisque la situation économique était terrible.
Alors, on va revenir dans un instant sur les leviers politiques et diplomatiques qui pourraient être actionnés pour au moins déjà gérer cette urgence et peut-être obtenir un cessez-le-feu avant d'aller vers un règlement politique. Mais pour rester effectivement sur les victimes de cette guerre, Laurent Bonnefoy, ce sont essentiellement les civils qui subissent ce conflit aujourd'hui et qu'ils subissent de la part des deux côtés des deux belligérants.
Oui, c'est très probable. Or, le problème, c'est qu'on n'a tout simplement pas de chiffres. Il y a le chiffre de 10 000 morts qui circule depuis bientôt un an, qui est le chiffre qui a été donné par l'ONU, et il n'a pas évolué depuis, alors même que les combats s'y déroulent et sont de plus en plus féroces et ont gagné depuis bientôt un mois la capitale, ce qui était quelque chose de neuf, c'est-à-dire des combats au sol, plus seulement des bombardements. Et puis par ailleurs, on a toute cette catastrophe humanitaire. Il faut savoir que au cours de l'année 2017, donc depuis avril, le début de l'épidémie de choléra, on a comptabilisé ou on a estimé qu'il y avait 1 million de Yéménites qui avaient été touchés par cette épidémie et que cette épidémie aurait fait autour de 2000 morts. Et ces 2000 morts, eh bien, on ne les trouve pas dans la comptabilisation. On ne trouve pas tous des enfants qui meurent d'une simple diarrhée, des personnes qui souffrent de diabète ou de maladies bénignes qui se trouvent dans l'impossibilité d'avoir des médicaments. Cette prise de conscience aujourd'hui de la gravité de la situation humanitaire qui est mise en avant avec chiffres à l'appui par les ONG, moi, me semble importante. Et on perçoit qu'aujourd'hui, il y a une forme de tournant. Il y a un tournant qui est politique des combats et pas pour le meilleur. Mais il y a aussi un tournant, je pense, à l'échelle internationale avec la tribune, avec aussi hier une audition par la Commission des Affaires étrangères de l'Assemblée nationale. Il y a 10 jours, la couverture de The Economist. Tous ces éléments montrent que, d'une certaine manière, on commence à en parler. Et moi, ça me semble fondamental aujourd'hui parce qu'il existe des leviers diplomatiques qu'il faut activer.
J'ai pas évoqué d'ailleurs les signataires de la tribune. Ils sont trop nombreux pour les citer tous, évidemment. Mais Laurent Bonnefoy et Gilles Gauthier, vous l'avez signé. Mais il y a aussi Robert Badinter. Il y a Shirin Ebadi, prix Nobel de la paix. C'est une liste assez composite parce qu'il y a aussi un certain nombre d'artistes. Il y a Yann Egland, le secrétaire général du bureau des réfugiés en Norvège. Enfin, il y a aussi donc un certain nombre de personnalités politiques. Ce qui peut-être changer, comment dire, la prise de conscience qui a nécessité de ne pas continuer comme on le fait depuis mars 2015. C'est aussi peut-être parce que ces victimes-là, on commence à les voir, y compris en Arabie Saoudite. Fatia Daziani, vous nous disiez en préparant l'émission que vous aviez vu un certain nombre de Yéménites dans les rues. Qu'est-ce que vous avez vu et qu'en pense, enfin, c'est toujours un petit peu compliqué, mais qu'en pensent les Saoudiens aujourd'hui de cette guerre qui dure quand même, hein, 1000 jours.
Oui, alors c'est vrai que c'est compliqué hein, de parler déjà d'opinion publique saoudienne, même si elle s'exprime beaucoup sur les réseaux sociaux. Le Yémen ne fait pas la une, hein, très clairement, en Arabie Saoudite. Ce sont les leaders politiques, bien sûr, qui maîtrisent tous les médias, qui en parlent, et qui en parlent, bien sûr, comme d'un conflit totalement diligenté par l'Iran. Donc ça, c'est vraiment aussi la perception. C'est non seulement la guerre a été vendue aux Saoudiens comme étant une menace directe à la frontière de l'Arabie Saoudite par l'Iran. Aujourd'hui, les quelques missiles qui ont atteint Riyad ou sa périphérie, qui seraient, dit-on, de fabrication iranienne, renforcent les propos. Et donc, quand on parle de cette guerre, c'est bien entendu en opposant Iran et intérêts saoudiens. Et ça, évidemment, les Saoudiens vont pas aller contre la rhétorique nationale. Hein. Maintenant, c'est vrai qu'il y a, on dit qu'il y aurait 3 millions de Yéménites en Arabie Saoudite, environ près d'1,5 million à Jeddah et sa périphérie. Jeddah est une ville vraiment yéménite. Et j'ai vu effectivement pour la première fois.
Ce ne sont pas des Yéménites qui sont tous là du fait de la guerre. C'est-à-dire qu'il y avait déjà une communauté yéménite importante.
Il y avait environ 2 millions de Yéménites en Arabie Saoudite avant le conflit. Et il y en aurait eu 1 million en plus. Mais là, on les voit à Riyad, effectivement. On voit des petits enfants sur la route mendier, des personnes âgées également. Alors, même si c'est totalement interdit en Arabie Saoudite, parce que vous avez quand même des centres, des associations caritatives qui s'occupent hein, de donner à manger, de fournir des biens, etc. à ces Yéménites. Donc, effectivement, c'est perceptible aussi de cette manière. Et puis, c'est également perceptible par le coût qu'a cette guerre. Hein, parce que maintenant, les Saoudiens sont soumis aux taxes, aux impôts, etc. Donc, effectivement, il y a quand même de plus en plus cette volonté de participer au débat et de dire et de demander un peu des comptes, quand même.
Donc, malgré tout, vous disiez tout à l'heure, il y a une approche qui reste jusqu'au boutiste.
Ah ben ça, cette approche jusqu'au boutiste, moi, je l'ai eue par des conseillers du palais, hein, dire qu'il est... il est évident que il est hors de question qu'on laisse ces milices houthis devenir aussi importantes et s'organiser tel le Hezbollah au Liban. C'est vraiment la logorée officielle.
Alors évidemment, c'est terrible, hein, ce qui se passe pour ce pays, qui est un pays jeune dans sa forme actuelle, 1990, hein, c'est ça, la réunion du Nord et du Sud, pays qui pouvait sembler plein de promesses, en tout cas qui pouvait donner envie d'y aller. Écoutez, une publicité, alors elle est en anglais, mais on l'a traduite, au début des années 2000, c'est l'Office de tourisme yéménite qui fait sa pub.
It was here. C'est ici que la Terre a donné naissance à la civilisation, où l'histoire de l'humanité a commencé. Une merveilleuse mosaïque de nature vierge et d'impressionnants horizons inexplorés, de splendides vagues de sable qui brillent sous le soleil doré. Il y a des vues impressionnantes partout où vous posez les yeux. La terre de la légendaire reine de Saba et à tout jamais la vieille capitale du royaume de Saba.
Gilles Gauthier, vous disiez tout à l'heure, c'était avant la guerre un pays qui était déjà pauvre, qui avait un certain nombre de difficultés. Donc cette guerre en ajoute et plonge le pays dans une grande détresse. Et en même temps, il y avait quand même aussi, voilà, une image un peu mythique, disons, de ce pays. Hein.
C'est un très vieux pays. L'histoire, les traces historiques remontent au Xe siècle avant Jésus-Christ. C'est un pays qui a, à de nombreuses époques dans l'histoire, était un pays de civilisation, c'est un pays de culture, où les gens sont cultivés, les gens ont des livres chez eux, certaines catégories sociales ont des livres chez eux, des livres, des bibliothèques absolument fabuleuses, avec des livres très anciens, et c'est un pays dans le futur duquel nous croyons, tout en connaissant les difficultés, mais nous avons cru à un moment qu'avec l'aide internationale, avec l'aide des pays voisins, nous pensions que c'était leur intérêt, aux pays voisins, qui avaient tant d'argent, que c'était leur intérêt d'aider le Yémen à se développer. Et les choses ont mal tourné. On a oublié un élément qui était la révolution, une très belle révolution, la révolution yéménite en 1911. Mais dont les conséquences ont été bien sûr...
C'est 2011, hein, c'est ça.
2000, qu'est-ce que j'ai dit ?
1911. Non, je me disais, il y en a peut-être une en 1911.
Non.
C'est-à-dire pendant les révolutions arabes.
2011.
Voilà, ça faisait partie des révolutions
2011,
arabes.
Moi, j'étais là-bas en 2012 et il y avait un enthousiasme, un souffle nouveau. Et puis voilà, tout ça, m'a très mal tourné. Mais alors, parmi les grandes faiblesses du Yémen, qui, je crois, alors là, sont pratiquement maintenant presque irréversibles, il y a le fait que l'union entre le Sud et le Nord n'avait pas pris. Elle n'avait pas réellement pris. Et ça, c'est en train de... Ça, c'est quelque chose qui est cassé et peut-être pour longtemps.
Laurent Bonnefoy, vous êtes très souvent sollicité, hein, sur le Yémen, même si ce conflit devrait être davantage médiatisé. Et j'ai remarqué qu'à chaque fois que vous répondez à une interview, vous dites que ce pays est un laboratoire dans lequel, alors vous le dites pas forcément toujours de la même manière, mais dans lequel s'observent des enjeux que d'autres pays pourraient bien connaître. Qu'est-ce que vous entendez par là ?
Oui, alors j'entends par là que le pays, au-delà des considérations liées à son histoire, liées à finalement la richesse de sa civilisation. Il faut se souvenir qu'au XVIIIe siècle, le pays est une usine à fantasmes aussi en Europe. Voltaire écrit que c'est le pays le plus agréable du monde, mais qu'il y a aujourd'hui un certain nombre de défis qui viennent se poser à ce pays. Il y a le défi démographique d'abord. Alors on dit qu'il y a 30 millions d'habitants aujourd'hui, que la population est censée doubler tous les 20 ans. Donc on va se retrouver avec 60 millions de Yéménites. Et 60 millions de Yéménites dans un pays qui a très peu de ressources naturelles, ressources pétrolières, qui est très pauvre, mais aussi qui est confronté et qui sera confronté à un problème de ressources en eau. C'est-à-dire que notamment dans les hautes terres, la capitale Sanaa, qui aujourd'hui a 3 millions d'habitants, eh bien, pourrait se retrouver à sec dans 10 ou 15 ans. Et ces questions-là qui imposeront des investissements colossaux pour régler même des mouvements de population, la construction de villes nouvelles, des réfugiés climatiques, puisqu'on va les appeler comme ça, c'est quelque chose qu'on va devoir fatalement prendre en considération, non seulement au Yémen, mais aussi ailleurs. Et il importe donc de ne pas perdre du temps. On perd énormément de temps avec cette guerre. On se focalise sur des considérations politiques qui nous font oublier des défis qui sont réellement structurels, mais qui ne concernent pas que le Yémen, qui concernent, à mon sens, toute la planète et toute la région.
Et donc, pour ne pas continuer à perdre du temps, il faut que cette guerre cesse et qu'au moins il y ait un cessez-le-feu. Est-ce que la France, le Royaume-Uni, les États-Unis ont le pouvoir de peser sur l'Arabie Saoudite et les Émirats Arabes Unis, Gilles Gauthier, pour les inciter à décréter ce cessez-le-feu? Parce que, a priori, c'est quand même de ce côté-là qu'on peut obtenir quelque chose, d'abord.
C'est pour ça que je suis content d'être parmi vous, parce que j'ai envie de dire, j'espère qu'il y a des gens qui nous écoutent, au Quai d'Orsay ou à l'Élysée, j'ai envie de dire que oui, je suis persuadé que une action résolue de la France, bon, maintenant les États-Unis, on ne peut plus tellement compter sur eux, mais même si la France, simplement, la Grande-Bretagne, et ajoutons aussi l'Allemagne qui pèse d'un poids économique important, s'appuyant sur l'Europe, disaient sérieusement, ces trois pays disaient sérieusement aux pays de la région, la situation est intenable, il faut trouver une solution qui sauve la face de tout le monde et entrer dans une désescalade. N'allons pas prononcer de grands mots, de solution, Yémen, je n'en vois pas pour l'instant, mais une désescalade. Et cette désescalade, je pense que les pays que je viens de citer ont la possibilité de convaincre. Ils sont assez importants pour ça. Ont-ils la volonté de le faire? C'est autre chose. Mais je pense que s'ils avaient la volonté, ils pourraient avoir une influence. Donc c'est entre les mains. Nous avons la chance d'avoir en France un nouveau gouvernement qui n'est pas responsable de ce qui s'est passé. Le gouvernement précédent a une lourde responsabilité.
Parce qu'il a trop misé sur l'Arabie Saoudite ?
Beaucoup, beaucoup. Le nouveau gouvernement n'a pas cette responsabilité. Donc il a la liberté maintenant de faire une bonne politique, qui n'est pas de rompre avec l'Arabie Saoudite, surtout pas, qui est de considérer cette région comme un ensemble et d'avoir un objectif pour toute cette région de stabilité.
Fatia Daziani, imaginons qu'il y ait cette volonté de peser.
Je trouve Gilles très optimiste.
Qu'il y aurait, cette capacité, en tout cas, d'influencer et l'Arabie Saoudite et peut-être aussi ses alliés. Parce que l'Arabie Saoudite, même si elle mène cette coalition, elle n'est pas seule. Il y a les Émirats Arabes Unis, mais il y a aussi, alors à des degrés moindres, évidemment, mais il y a quoi? Il y a le Maroc, il y a l'Égypte.
Non, honnêtement, cette coalition se résume aujourd'hui au duopole saoudo-émirati. Très honnêtement, qui sont parmi les alliés stratégiques les plus importants de la France, la Grande-Bretagne et des États-Unis. Donc, il est clair que si ces pays sont très sérieux pour essayer de mettre fin à cette guerre, ils ont des moyens de peser, de convaincre, je ne sais pas, mais de peser en tout cas.
Est-ce qu'on a déjà des preuves par le passé de pression, peut-être justement, qui aurait fonctionné?
Non, mais dernièrement, enfin, quand le président Macron a vu, je crois qu'il a eu cet entretien pendant 2 heures à l'aéroport royal à Riyad avec le prince, la question yéménite a été évoquée. Contrairement à ce qu'on a dit, c'est pas du tout le cas Hariri qui a été déterminant dans cette rencontre, pas du tout. Paraît-il, ça a été à peine évoqué.
Le premier ministre libanais
on a présenté le président Macron comme le sauveur, etc. Bon, paraît-il, ils en ont peut-être parlé, mais en privé. Dans l'entretien public où les gens qui ont assisté et qui m'ont dit, ils ont surtout parlé de la question iranienne et du Yémen. Donc, bien entendu, enfin, n'importe quel responsable politique, évidemment, a à cœur quand même de dire, écoutez, cette guerre, c'est pas possible, il faut que ça cesse. Maintenant, quand je vois la détermination avec laquelle les Saoudiens et les Émiratis veulent vraiment mener de manière jusqu'au boutiste cette guerre, je vois pas comment, honnêtement, on peut les arrêter. Hein, très
juste
honnêtement.
Une seconde, parce que je vois que le temps passe, mais vous vous demandez s'il y avait eu déjà du travail fait en commun. Oui, il y en a eu après la Révolution pour la transition, qu'on a appelé à l'époque la transition démocratique.
Il y a eu la médiation koweïtienne.
Il y a eu à ce moment-là les pays du Conseil de sécurité et les pays de la région ont travaillé ensemble. Et je pense que c'est pas impossible de dire que convaincre les gens que c'est leur intérêt, y compris les Saoudiens. Je crois que leur intérêt est de sortir de cette guerre.
Bien sûr, parce que
elle ne les amène nulle part. C'est un leurre de penser qu'ils ont l'Iran là. C'est pas l'Iran qui est là. C'est toute la complexité yéménite. Mais l'Iran, les Iraniens se frottent les mains en regardant les choses se décomposer. Mais ça ne dépasse pas ça, leur intervention.
C'est-à-dire qu'ils voient leur adversaire s'engluer dans une guerre sans y participer très directement.
Il y a quand même une aide logistique via le Hezbollah, quand même. Hein. Ça, c'est avéré. Hein. C'est...
Oui, mais pas avec des armes très lourdes.
Non, c'est vrai. On ne peut pas dire que l'Iran est impliqué comme l'Arabie Saoudite est impliquée dans ce conflit, évidemment. Mais aujourd'hui, c'est vrai que c'est une prophétie qui s'est auto-réalisée. L'Iran doit compter parmi les pays régionaux qui doivent effectivement compter pour la fin de ce conflit, je pense.
Alors, je vais plaider pour le long terme et tenter un petit peu de ramener la focale un peu plus loin, c'est-à-dire de considérer que les pays de la région, l'Arabie Saoudite et les Émirats Arabes Unis, ont en effet intérêt à ce que la guerre cesse. Elles ont intérêt également à avoir un Yémen stable, et elles ont intérêt à avoir un Yémen qui serait développé et qui serait le plus riche possible. C'est-à-dire que, considérant les dynamiques démographiques, et considérant aussi la volonté de Mohamed bin Salman, le prince héritier saoudien, d'engager une forme de diversification économique, l'Arabie Saoudite a aujourd'hui intérêt à avoir un marché à ses portes, le Yémen, a intérêt à avoir une main-d'œuvre qu'elle irait chercher ailleurs qu'en Asie du Sud-Est, et puis a intérêt à avoir aussi une forme de stabilité. Et ça, c'est extrêmement important.
C'est-à-dire, c'est quoi une sortie acceptable de cette guerre pour les Saoudiens?
Alors, moi, je ne sais pas quel est le deal qui est acceptable. Ça peut être un deal qui est uniquement symbolique, et ça peut aller très très vite. Je pense que, par exemple, il y a eu une occasion qui a été loupée il y a près d'un mois, au moment où Ali Abdallah Saleh s'est retourné contre les Houthis avant d'être assassiné, dans le sens où les Saoudiens, à ce moment-là, ont considéré que, comme il y avait un soulèvement intérieur, eh bien, ils étaient en capacité de lever le pied. Donc ça, on peut imaginer plein de systèmes. On peut imaginer une fête religieuse. On peut imaginer un deal en secret qui ferait que, ils décideraient d'arrêter les bombardements. Mais je pense qu'il faut aussi voir à long terme et considérer quel peut être le deal passé entre deux pays, deux entités. Tout comme dans l'Union européenne, à un certain moment, on a envisagé une espèce de deal de long terme pour gérer l'Europe de l'Est. Eh bien, c'est un même type de configuration. C'est-à-dire que le Yémen, on ne doit pas seulement nous-mêmes, en tant qu'Européens, mais les Saoudiens et les Émiratis, le percevoir comme une menace, mais aussi le percevoir comme une opportunité. Et c'est en ça aussi qu'il est un laboratoire. Parce que si on laisse filer le dossier yéménite, si on laisse filer toute cette société, s'effondrer, eh bien, chacun en paiera le coup.
Plus personne n'a intérêt, finalement, à ce que cette guerre se poursuive, Fatia Daziyeni.
Ah oui, absolument. C'est vrai que les Saoudiens ont intérêt à mettre fin à ce conflit. C'est clair. Les raisons qu'a invoquées Laurent sont parfaitement justifiées. Maintenant, qu'est-ce qui est acceptable pour les Saoudiens? En tout cas, certainement pas un pouvoir contrôlé par la milice Houthi. Ça, c'est quelque chose qui est absolument inacceptable pour eux. C'est vraiment ce qui fait que j'ai ressenti cette volonté jusqu'au boutiste d'isoler à tout prix les Houthis au sein du pays. Très honnêtement, au jour d'aujourd'hui, je vois pas d'issue rapide.
Mais on verra si ce qui semble peut-être quand même constituer une forme de prise de conscience, au moins dans le milieu, on va dire, intellectuel, se traduit ensuite par la suite par des initiatives politiques un petit peu plus claires et un peu plus fortes que ce qui a eu lieu jusqu'à présent. Merci beaucoup en tout cas à tous les trois d'avoir participé à cette discussion. Gilles Gauthier, Fatia Dazieni et Laurent Bonnefoy. Les ouvrages respectifs des uns et des autres, c'est sur notre site franceculture.fr, à la page du Grain à Moudre. Merci à l'équipe du Grain, Marine Beccarelli, Antoine Tricot, Virginie Leduo, Antoine Dulster et Eva Pellerin. Émission réalisée par Véronique Villa, avec à la prise de son Anthony Thomasson. Dans un instant, vous allez retrouver La Dispute avec vous, Arnaud Laporte.
Absolument, Hervé Gardette, on parle d'art plastique et ce soir de livres consacrés à l'art et demain dans du Grain à Moudre.
Racisme d'État, blackface, non-mixité, tous les racismes se valent-ils? Je précise qu'il y a beaucoup de guillemets dans notre titre. On est prudent.
Vous indiquerez les endroits des guillemets. Voilà. Pour demain. 19h, France Culture, les titres de l'actualité avec Clément Lacaton.